Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine, y compris l'actualité culturelle, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence.
Bonjour Romain.
Alors Laurence, cette semaine, ce sont les vacances de printemps pour les écoliers français et il faut occuper nos enfants. Mais c'est pas pour ça qu'on les emmènera dans un des festivals de musique dont la saison vient de commencer aux États-Unis et en particulier dans le plus grand d'entre eux, le festival de Coachella qui se déroule sur deux week-ends, celui-ci du 12 au 14 avril et le suivant du 19 au 21 avril. Alors Coachella, c'est ce grand festival de musique en Californie, une véritable institution, c'est l'endroit du cool. Mais ce n'est pas le seul festival américain, loin de là. Les États-Unis n'ont rien à envier à la France en matière de festival, c'est un paysage extrêmement divers, avec ses évolutions et ses problématiques. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre ce matin, Laurence.
Vous avez raison, Romain, les États-Unis comptent de très très nombreux festivals et sur tous les thèmes. Là, avec Coachella, dont on va reparler, on évoque la musique. Il y en a d'autres, par exemple le festival de jazz de la Nouvelle-Orléans, qui va se tenir bientôt, c'est fin avril, début mai. Il ne faut pas le confondre avec les célébrations de Mardi Gras qui ont lieu en février-mars à la Nouvelle-Orléans. Mais il y a aussi des festivals de théâtre, et là, beaucoup ont le nom de Shakespeare dans le titre. On est dans le monde anglo-saxon, donc on ne peut pas éviter cette référence. Il y a aussi des festivals de cinéma. Alors, à Hollywood, c'est un peu le festival toute l'année, avec toutes ces remises de prix extrêmement suivies. Le festival de cinéma qu'il faut suivre, c'est celui de Sundance, qui parle de cinéma indépendant. Il se déroule dans l'Utah, il y a deux lieux près de Salt Lake City. Des festivals d'art contemporain, peut-être. Il faut savoir que le festival Swiss Art Basel a maintenant une déclinaison à Miami. Ça se déroule en hiver, on peut profiter du soleil. Un autre festival sur une autre forme d'art, c'est le Comic-Con de San Diego. Alors là, c'est un festival de bande dessinée, la bande dessinée à l'américaine, c'est-à-dire avec des super-héros. Et si vous y allez, c'est vraiment recommandé de se déguiser. Alors soit en Batman ou en Superman, en Wonder Woman, vous pouvez aussi y aller déguisé en princesse Disney. C'est un peu le mode cosplay.
C'est d'ailleurs le costume que je choisirais en ce qui me concerne.
Si vous voulez rester dans le genre délirant, il y a aussi le festival de Roswell qui parle d'extraterrestres. Ça se passe en juillet, évidemment, au Nouveau-Mexique, dans une ambiance assez bon enfant. Et puis enfin, d'autres genres de manifestations, de festivals sur des causes sociétales. Et là, je vais vous parler de la Gay Pride qui se déroule à San Francisco.
Mais la Gay Pride, c'est aussi un festival ?
Excellente question, Romain. C'est pas forcément un festival parce que la définition du festival sous-entend un événement sur plusieurs jours et dans un endroit particulier où on va se rendre exprès, pas forcément dans une grande ville. La Gay Pride, donc à San Francisco, c'est quelque chose qui se déroule sur une journée, en plein cœur de la ville. Et c'est vrai, c'est plutôt un défilé, plutôt une parade qu'un festival.
Mais revenons à Coachella, dont tout le monde a déjà entendu le nom. Qu'est-ce que c'est ce festival et est-ce qu'il faut que j'y aille ?
Alors c'est un festival de musique qui a été fondé en 1999. Il est organisé en Californie, près de la ville de Indio. C'est dans le désert du Colorado et plus précisément donc dans la vallée de Coachella. C'est aujourd'hui le plus grand festival de musique aux États-Unis. Peut-être au monde, je ne sais pas. En tout cas, en 2023, il y a eu une participation record avec 500 000 personnes qui s'y sont rendues.
Et qu'est-ce qu'on y écoute comme style de musique ?
Il y a une soixantaine de groupes qui se produisent, rock, pop électro, hip-hop. La programmation est identique sur les deux week-ends. Pour en savoir plus, je suis allée sur le site de Coachella et cette année, 2024, on va pouvoir entendre Lana Del Rey, Blur, DJ Snake et la Belge Charlotte De Witt. Pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas la plupart des noms, donc j'invite les auditeurs à aller voir eux-mêmes.
Moi, j'invite les auditeurs à attendre le disque de country que va sortir Lana Del Rey en septembre. Et Lana Del Rey, pour ceux qui aiment la country et pour ceux qui aiment Lana Del Rey, je fais partie des deux catégories. C'est une idée absolument géniale, tant cette voix est évidemment faite pour cette musique. Je referme la parenthèse. Et alors, si je veux aller à Coachella cette année pour écouter Lana Del Rey, comment je fais ?
Hier, 9 avril, il restait des places pour le second week-end. Il faut compter $600 pour une participation les 3 jours de ce second week-end. $600, mais il faudra payer en plus la navette pour y aller et le logement, soit camping, soit hôtel, une fois que vous êtes sur place. Vous pouvez trouver des deals dans des hôtels un peu corrects à partir de $3500 ou $4000.
Ah oui, donc c'est plutôt pour des gens qui ont les moyens, non ?
Oui, d'autant plus que le spectacle est aussi dans la salle. Enfin, pas vraiment dans la salle, puisque c'est en plein air, dans le désert. Il faut, si vous y allez, prévoir des tenues dans un mode un peu désert chic ou peut-être bohème de luxe, comme vous voudrez. Et évidemment, c'est là l'un des reproches qu'on fait aujourd'hui à Coachella, c'est que c'est un festival aujourd'hui très gentrifié qui attire les stars d'Hollywood et les élites de la côte Est et de tous les États-Unis en réalité.
Oui, mais avant d'être des destinations pour bobos argentés, les festivals américains ont une histoire d'événements un peu subversifs, non ?
Alors là, Romain, je vous vois venir, vous voulez que je parle de Woodstock, l'un des premiers grands festivals de musique, un événement unique qui s'est déroulé du 15 au 18 août 1969 dans l'État de New York. Woodstock, c'est vraiment une référence, ça a été, si vous voulez, l'apothéose de deux mouvements. D'une part, tout ce qui était hippie, flower power, donc une branche un peu apolitique des mouvements des années 60. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi sur place, très présent, les éléments relevant de la contre-culture américaine, donc des années 60, avec des manifestants anti-guerre du Vietnam, des représentants des mouvements de libération des Noirs, des femmes, des gays, etc. Cet événement, qui était prévu au départ pour 50 000 spectateurs, a fait l'objet d'une sorte de buzz avant Internet, à l'été 1969. Un succès fou, puisque au final, ce sont 450 000 personnes qui se sont rendues sur place pour écouter 32 groupes. Ce qui fait que Woodstock reste très présent dans la culture et dans la mémoire aujourd'hui, c'est que d'excellents enregistrements audio et un petit peu moins bons vidéo ont été faits des concerts sur place qui ont permis par la suite de conserver les événements musicaux des chansons qui ont été interprétées de manière spectaculaire sur place. On parle de Joe Cocker, on parle de Jefferson Airplane et puis évidemment l'hymne américain joué par Jimi Hendrix. Mais en réalité, les trois jours du festival de Woodstock ont été assez pénibles. Il a beaucoup plu et les champs se sont transformés en champs de boue. Il y avait énormément d'usages de drogue, notamment de LSD, avec pas mal de bad trips derrière. Beaucoup plus de monde que prévu, donc pas assez de nourriture, pas assez de toilettes, etc. Donc, une expérience qui n'a pas été forcément géniale pour les personnes qui y étaient.
Et les rééditions de 94 et 99 n'ont pas été formidables non plus, non ?
Non, c'était pas du tout réussi.
Mais ce côté contre-culturel des festivals, c'est un peu terminé aujourd'hui, non ?
Le seul festival qui semble vraiment hors des sentiers battus, c'est le festival de Burning Man.
Alors dites-nous un petit peu ce que c'est que ce festival de Burning Man.
C'est un événement qui date des années 1980. On le confond souvent avec Coachella parce qu'il se passe aussi dans le désert, en l'occurrence dans le Nevada, à côté d'un lieu qui s'appelle Black Rock. Mais les deux événements n'ont rien à voir. D'abord, Burning Man, c'est pas un festival de musique. C'est même pas d'ailleurs un festival, selon les organisateurs, qui parlent plutôt d'un rassemblement. Donc, un rassemblement d'expression artistique libre. C'est plutôt un festival d'art alternatif et surtout de performance dans un esprit communautaire plus ou moins écolo aujourd'hui.
Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça ?
Alors, tout le monde se réunit pendant une semaine dans une ville qui est construite de manière temporaire à Black Rock, donc. Tout le monde peut s'y exprimer, construire de vastes sculptures dans le désert. Il y a beaucoup de gens qui amènent leurs voitures qu'ils ont transformées en œuvres d'art. On les appelle d'ailleurs des car-artistes. Je ne sais pas si vous saisissez l'astuce.
Je l'ai.
Et à la fin de la semaine, on brûle un immense mannequin en paille qui donne son nom au festival, donc Burning Man. Au tout départ, dans les années 80, Burning Man était un feu de joie qui se déroulait le 21 juin, donc pendant le solstice d'été, c'était sur la côte de Californie, près de San Francisco. Aujourd'hui, le festival a lieu la dernière semaine d'août, juste avant le premier lundi de septembre. Un autre marqueur de ce festival, c'est qu'il y a énormément de drogues qui sont consommées sur place et que les participants viennent, pour le coup, avec des costumes vraiment incroyables. Alors, j'ai parlé de désert chic pour Coachella. Burning Man, il faut que ce soit encore plus spectaculaire. Si vous allez voir les photos sur Internet, vous verrez qu'il y a pas mal de femmes qui ressemblent un peu à Princesse Leia dans son maillot de bain doré, vous
oh,
voyez
oui.
mais vous pouvez aussi venir habillé de manière tout à fait négligée, voire malpropre. On peut aussi, il y a quelques personnes qui le font, pratiquer le naturisme à Burning Man parce que le mot d'ordre, c'est la liberté d'expression de chacun. En bref, je ne suis jamais allée à Burning Man, mais tout ce que j'entends, c'est que c'est une expérience absolument délirante et irremplaçable.
Et alors les chiffres derrière tout ça ?
Burning Man reste beaucoup plus exclusif que Coachella. J'avais dit 500 000 personnes en 2023. À Burning Man, il n'y avait que 70 000 personnes, donc beaucoup plus petit. Et pour ce qui est des tarifs, votre question tombe bien parce que l'ouverture des ventes pour le festival 2024, c'était aujourd'hui, le 10 avril à midi. On a une période de 2 jours pour acheter les tickets à tarif normal, c'est-à-dire 575 $ par personne et 150 $ si vous voulez amener votre voiture. Il faut compter en plus le trajet jusque dans le Nevada, les autres frais, les taxes du Nevada qui sont assez élevées. Donc, c'est pas tellement moins cher que Coachella.
Mais si on compare Coachella et Burning Man à Woodstock dans les années 60 dont vous parliez, Woodstock qui était véritablement une sorte d'incarnation des contre-cultures américaines dans les années 60, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une représentation idéologique ou sociale de l'Amérique dans ces deux festivals ?
Alors vraiment, je crois pas, parce que d'abord, il faut avoir les moyens, c'est pas n'importe quel Américain qui peut se rendre dans ces deux événements. Et puis, l'autre problème qu'il faut pointer, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de minorités dans le public de ces deux festivals. Vous évoquiez Woodstock, à l'époque, il y avait pas non plus eu beaucoup de minorités dans le public. Mais enfin, les temps ont changé, on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait plus à Burning Man et à Coachella. Alors, il y en a dans le line-up des groupes qui se produisent, hein, il y avait Jimi Hendrix à Woodstock. Aujourd'hui, il y a eu Kendrick Lamar à Coachella. Il y a eu Beyoncé en 2018. Mais là, vraiment, je parlais du public. En 2022, à Burning Man, on avait 80% de festivaliers qui se définissaient comme blancs non-hispaniques. Vous savez, cette catégorie du bureau du recensement américain. 8% d'asiatiques, 10% d'hispaniques et 2% seulement d'africains-américains. Donc, c'est vraiment pas du tout représentatif de la société américaine dans son ensemble. Qui plus est, on dénonce régulièrement le fait que certains participants se font des costumes avec des éléments afro-américains et surtout amérindiens. On parle donc et on dénonce une appropriation culturelle.
Mais est-ce qu'il y a, à contrario, ou en tout cas parallèlement, des festivals proprement afro-américains ?
Oui, il y en a, et il y en a toujours eu, parce que si on remonte de nouveau à Woodstock en 1969, eh bien, pendant ce temps-là, en juillet-août, il y a eu une série de concerts gratuits à Harlem, ça s'appelait le Festival culturel de Harlem, mais on a parlé ensuite d'un Black Woodstock, entre guillemets, des concerts gratuits donc avec Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, qui ont attiré pas moins de 300 000 personnes. Jesse Jackson, d'ailleurs, l'un des compagnons de Martin Luther King, y a été et a raconté par la suite que ça l'avait consolé de l'assassinat de Martin Luther King l'année précédente.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu tous ces festivals ?
Il y en a encore énormément. On peut vraiment dire que ce festival Black Woodstock a trouvé ses héritiers. Je vous cite par exemple le festival Afropunk qui a été créé à Brooklyn en 2005. Il a essaimé aujourd'hui à Atlanta notamment et même à Paris, il y a eu quelques éditions. Tout ceci, pour conclure, Romain dessine un paysage de très nombreux festivals, très sympathiques, mais qui en même temps ne semble pas être très fédérateur pour l'ensemble de la population américaine.
Effectivement, Laurence, on peut voir là encore un témoignage de la polarisation de la société américaine dont nous parlons podcast après podcast. En ce qui me concerne, Laurence, je serai bien entendu, comme chaque année cet été, du 19 au 21 août, à mon festival favori à moi, qui est la fête à la saucisse à Saint-Geniès dans le Périgord noir, et je me réjouis de vous y retrouver. D'ici là, on aura le temps d'en reparler. Merci et à la semaine prochaine.
Merci Romain, à la semaine prochaine.
Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcasts.